Mesdames, Messieurs, vous venez de prendre place sous la coupole de l'Institut de France, lieu des cérémonies solennelles des académies. L'Académie française est heureuse de vous y accueillir dans le cadre du premier festival Paris en toutes lettres. Créé en 1635 par le cardinal de Richelieu, l'Académie française compte 40 membres. L'Institut de France, lui, a été créé en 1795 pour réunir en un même lieu les cinq académies, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques. Lorsque tous les académiciens actuels sont réunis sous cette coupole, ils sont au nombre de 437, auxquels il convient d'ajouter les membres associés étrangers. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet de l'Institut de France. Vous pouvez aussi retrouver les académiciens sur le site internet de l'Académie française et les écouter grâce aux émissions de la radio canalacademie.com. Vous allez maintenant entendre les extraits d'ouvrages que 6 membres de l'Académie française ont préparés spécialement pour vous dans le cadre de ce festival.
Florence Delay de l'Académie française a choisi de nous lire des poèmes d'un livre de Jacques Roubaud, La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains.
Il s'agit de 150 poèmes écrits à la fin du siècle dernier, donc juste avant le 21e, sur Paris. Et c'est pour honorer Paris. Et Roubaud est un grand marcheur qui a parcouru les 20 arrondissements en long et en large. Et donc, de façon très allègre et précise, n'oublions pas qu'il est mathématicien, il dénombre et chante les rues de Paris. Après son maître, Raymond Queneau, en hommage à ce livre qui s'appelait « Courir les rues ».
Florence Delay de l'Académie française lit quelques-uns de ses poèmes.
Paris, d'après Raymond Queneau. Le Paris où nous marchons n'est pas celui où nous marchâmes. Et nous avançons sans flamme vers celui que nous laisserons. Métro. En ces temps-là, la station Assemblée nationale s'appelait Chambre des députés. La ligne 1, Vincennes-Neuilly. La station Cluny n'avait pas rouvert depuis la fin de l'occupation. Fantomas aurait pu y dérober une rame. On disait, vous descendez à la prochaine, aux demoiselles et aux jeunes dames de préférence non accompagnées, de leur maman, de leur mari, de leur amant. Sur toutes les portes de toutes les voitures était écrit « Le train ne peut partir que les portes fermées, ne pas gêner leur fermeture. » En vertu de quoi, les règles de la versification française n'avaient bientôt plus de secret pour vous. Ah jeunesse, ah jeunesse, ah. En ces temps-là, les marches des escaliers étaient en carborundum, dont on savait que la formule chimique est WC, W pour wolfram, qui est un pseudonyme de tungstène, et C pour carbone, inusable plus que le diamant. On cédait sa place assise aux femmes enceintes jusqu'aux dents, aux vieillards cacochimes et aux blondes oxygénées, mais pas aux anciens combattants de 70 ou de 14, qui de rage en sortaient leur carte d'invalidité, soulevant le bas de leurs pantalons jusqu'au mollet pour exhiber leurs blessures et prendre la foule à témoin. Et quand le portillon automatique se refermait à votre barbe, à votre nez, à l'heure du dernier métro, on rentrait à pied par les rues tranquilles, croisant des réverbères, des chats et des hirondelles cyclistes. Ah jeunesse, ah jeunesse, ah. En ces temps-là, on vous poinçonnait le ticket et pas qu'au lilas. Il y avait les voitures de première classe qui sentaient la première classe, comme Mireille Balin dans Pépé le Moko. Avant d'entrer dans les stations, on lisait, sur le mur du tunnel, du beau, du bon, du bonnet. Et ça rappelait l'avant-guerre, à ceux qui ne l'avaient pas vécu, aux autres aussi d'ailleurs. Pierre Dac vendait des enclumes à la sauvette dans les couloirs de la station Campo Formio. Ah, jeunesse, ah, jeunesse, ah. Mais en ces temps-là, n'est-ce pas, il n'y avait pas de station dont le nom de baptême fut Bobigny, Pantin, Raymond Queneau. Ceci compense cela. Comptine pour l'an 2000. Impasse des Deux Anges. Rue des Trois Sœurs. Rue des Quatre Fils. Rue des Cinq Diamantaires. Rue des Sept Arpents. Rue du 8 mai 1945. Place du 18 juin 1940. Place du 25 août 1944. Rue du 29 juillet. Place du 18 juin 1940. Place du 25 août 1944. Rue du 8 mai 1945. Paris, Paris, tes édiles ne savent pas compter jusqu'à 2000. Rue Volta. Plus de petite échoppe ancienne au 5 de la rue Volta. Survivance électricienne que le progrès englouta. Mais en revanche, devant la porte du restaurant vietnamien, au 7, discute avec le patron, deux assez prospères, peut-être ressortissants, de ce pays qui se nommait autrefois Haute Volta, et je me dis « Privation équatorienne, que la vie compense à la, pense à la, pense à la, pense à la Haute Volta. » Ode informelle et familière à la copie du maître étalon de la rue de Vaugirard. Sous les arcades rue de Vaugirard, entre la rue Garancière et la rue Férou, on lit « Maître étalon ». La Convention nationale, afin de généraliser l'usage du système métrique, fit placer 16 maîtres étalons en marbre dans les lieux les plus fréquentés de Paris. Les maîtres furent installés entre février 1796 et décembre 1797. Celui-ci est l'un des deux derniers qui subsistent à Paris et le seul qui soit encore sur son site originel. Le temps a passé, mon vieil ami, quand on s'est connu. J'avais 12 ans et toi, 148. C'était l'hiver de 1944. Il faisait froid. Les fontaines du Luxembourg avaient gelé. Le petit peuple des statues frissonnait. Les fesses des dames statues était toute blanche de givre, blanc sur le marbre, blanc aussi, là où il n'était pas vert, et si froid. Je m'allongeai sur le sol pour être parallèle à toi, afin de me mesurer selon une mesure exacte, bien plus sûre que celle des maîtres pliants ou des toises, ou que celle du maître ruban, dont mon père se servait pour nous évaluer, mes frères et sœurs et moi, grandissant, sinon à vue d'œil, du moins à vue de marques au crayon, de mois en mois, sur le montant de la porte de la cuisine. J'avais confiance en toi. J'avais confiance en la convention qui vous avait placé, toi et tes 15 frères, en différents lieux de Paris afin d'habituer les citoyens à contempler la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Je n'ai jamais cru aux platines iridiées du pavillon de Breteuil, encore moins à cette histoire absurde de longueur d'onde. Mais j'ai cru en toi. Aujourd'hui, j'ai vieilli. J'ai grandi, fini de grandir, commencé à dégrandir, et ce n'est qu'un début avant que cela ne se termine en une absence notable de mesure. Mais toi, on dirait que tu n'as pas changé, que tu n'as pas bougé d'un pouce, si j'ose m'exprimer ainsi. À peine quelques détentes suivies de quelques contractions, à cause des inévitables chauds et froids, à cause des nuits, des jours et des saisons, tu es resté pour moi le même, digne, mince, tendu, droit, gradué en décimètres. Entre tes deux butoirs, surmonté de ton nom de famille, maître, de ton chapeau de conventionnel, impassible, horizontal. C'est le printemps de 1994. Je suis venu te rendre visite, comme je le fais de temps en temps quand je passe par là. Tu ne m'en voudras pas si je ne m'allonge pas sur le sol comme autrefois, à tes pieds qui n'en sont pas. Les passants pourraient trouver cela bizarre de la part d'un monsieur de mon âge, même devant le palais du Luxembourg, où somnolent les sénateurs de la Ve République. Et ce serait vraisemblablement faire montre d'une certaine démesure. Vigipirate, 1996, Gare Saint-Lazare, par haut-parleur. Les voyageurs sont invités à ne pas laisser leurs enfants et leurs vieux parents sans surveillance. Ils pourraient être détruits par les services de sécurité. Un peu de sociologie. 158 saints, 33 saintes, des papes, 8 cardinaux, 11 abbés, 3 abbesses, une chanoinesse, un curé, des prêtres, des prêcheurs, des capucines et des carmes, des célestins, des récollets, des ursulines, des cordelières, un commandeur. Des princes, 3 dauphines, une princesse, 6 comtes, une comtesse, des chevaliers, des écuyers, un lord. 4 présidents, 8 maréchaux, 64 généraux, au moins 14 colonels, 2 lieutenants-colonels, 3 commandants, 8 capitaines, 4 lieutenants, 4 adjudants, 1 caporal, des arquebusiers, des amiraux, 1 agent, plus de 3 juges, 1 banquier, des entrepreneurs, des orfèvres, un seul négrier, au moins 41 docteurs, des bergers et 2 bergères, des bons vivants, 2 bouchers, des boulangers, des charbonniers, des chasseurs, des chaufourniers, des vinaigriers, un crépier, un cuvier, des déchargeurs, un facteur, 2 faucheurs, un fauconnier, des fermiers, des jardiniers, un verrier, des maraîchers, des mariniers, des ménétriers, des meuniers, des poissonniers, un porte-foin, un potier. 4 professeurs, des peintres, des poètes. Curieuse, curieuse cette répartition de la population des rues de Paris.
Angelo Rinaldi, de l'Académie française, a choisi de lire un poème de Baudelaire, « À une passante, tirée des fleurs du mal ».
À une passante, oui, car dans mon panthéon intérieur, que j'édifie depuis l'âge de 15 ans, j'ai observé que Baudelaire n'a jamais quitté son socle. Beaucoup ont varié, ont monté, quelques-uns ont descendu, quelques-uns sont remontés, mais pour Baudelaire, né variéture, comme on dit savamment. J'ai choisi une passante parce que c'est une situation qui me semble que chacun d'entre nous peut connaître ou a pu connaître dans sa jeunesse, c'est-à-dire de croiser un regard, de croiser un visage qui lui a fait rêver d'une autre vie possible, d'un amour, et tout cela a disparu en quelques secondes. L'âge ne fait rien à l'affaire, la beauté fera toujours rêver et toujours envisager jusqu'à la fin, car nous sommes de grands naïfs, jusqu'à la fin, une possibilité de recommencement. Je disais donc à une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant dans son œil, ciel livide, où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis. Tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Angelo Rinaldi lit maintenant un extrait de son dernier roman paru, Résidence des étoiles, aux éditions Fayard.
À travers les barreaux de la grille qu'elle ne franchirait pas, déjà dans le champ de surveillance de la caméra, elle désigna la maison en face, tandis que le chauffeur, familier sans doute de ses retards, descendait de voiture un paquet de cigarettes à la main pour s'en allumer une dans le caniveau où Hunter aimait se rafraîchir les extrémités dans l'eau des vannes de la voirie. « C'est là que Neige habite, » murmura-t-elle. « Neige, la petite qui a des cheveux tout blancs et à qui ça va si bien. Je me suis fait une amie de la nouvelle concierge. Pour ce que ça coûte, » ajouta-t-elle, l'air de froisser un billet de banque entre le pouce et l'index, attrapant par inadvertance l'extrémité de la queue empanage du persan qui se déployait sur sa poitrine. « On doit toujours essayer. Je ne renonce jamais. Qui ne tente rien n'a rien. » Avec sa tremblotte, le vieux, à mon avis, n'en a plus pour longtemps. Je l'ai observé. Il a beaucoup de mal pour certains gestes, mais dès qu'il parvient à les accomplir, la gueule de travers avec une grimace, c'est la croix et la bannière ensuite pour empêcher leur répétition. Il y a eu des cas comme ça au 42, et bien sûr, en pagaille, à la résidence. Ursula, petite ? L'épithète provenait de la tendresse et non de la réalité. Si l'on revoyait le fléchissement des genoux au-dessus de la boîte en fer où Gunther, le clochard, recueillait les pièces de monnaie lorsque la jupe de Neige remontait sur une paire de jambes qu'une agence eût encore retenue pour la publicité d'une marque de collants. Toute raide dans son maintien, par respect du confort de monsieur, à la vue duquel les passants avaient marqué un arrêt, Madame Laribaud attira par surprise la tête de Marc-Antoine contre la sienne et l'embrassa avec insistance sur les deux joues. Si faible qu'il fût, le pouvoir de son parfum agissait encore assez pour que s'illuminât pendant quelques secondes, comme dans un halo de brouillard, la devanture de leur exquise. « À bientôt, tu me le promets, n'est-ce pas ? Et avant décembre. Le meuble, on te le livre quand tu veux. Prends bien soin de toi. Mange. » Elle avait appuyé sur le dernier mot. Il monta dans la voiture en se répétant la recommandation de sa mère qui opposait son sang-froid aux caprices des clientes de la parfumerie, son impassibilité devant leur confidence dans la cabine du grand soin quand elle avait échoué à les persuader que de se taire favorisait la pénétration dans la peau de la crème censée atténuer les rides et d'une recette qui relevait du secret des sœurs Cara autant que la coupe de leur jupe est ailleurs. Ne rien faire seul que l'on ne puisse exécuter en public et, quoi qu'il arrive, se contrôler. À cette distance où, dans le miroitement de la plaque en cuivre, se fondaient les lettres en creux composant le nom de la résidence, Madame Laribaud, le chat sur les épaules, et qui suis-je elle regardait, avait beaucoup de la meneuse de revue descendant le grand escalier, un boa en plume autour du cou, mais aussi la robustesse de sa carrure aidant, du bon pasteur qui, dans l'image distribuée aux enfants par le chanoine Tola, ramenait au troupeau la brebis égarée. Il souleva la languette qui commandait la vitre et au démarrage de la voiture dont le chauffeur avait réclamé de finir sa cigarette au volant, la tête penchée à la portière, Marc-Antoine, qui détestait sa voix dans ce registre encore plus que dans un autre, vociféra « Oui, à bientôt, Yvette !» Et il agita lui aussi la main dans le revoir qui allait retentir le long du boulevard où personne n'avait encore ramassé sur un trottoir le livre jaune oublié par Gunther. mais on sait parfois lorsque c'est la dernière fois.
Frédéric Vitoux, de l'Académie française, a choisi de lire un extrait de « Voyage au bout de la nuit » de Louis-Ferdinand Céline.
Pourquoi Louis-Ferdinand Céline et pourquoi « Voyage au bout de la nuit » ? Sans doute, à mes yeux, et je ne suis pas le seul évidemment à penser comme cela, parce qu'il s'agit d'un des plus grands romans de la littérature française du XXe siècle, de l'un des plus grands écrivains français du XXe siècle. Sans doute aussi parce que, un peu par malice, j'ai souhaité lire un extrait de l'écrivain sans doute le moins académique du XXe siècle, et c'est peu de le dire en pensant à Louis-Ferdinand Céline, et aussi parce que ce passage de Voyage au bout de la nuit évoque un décor qui est tout près de l'Académie française, tout près de la coupole, puisque l'action de ce passage se situe rue Bonaparte et sur les quais de la Seine en face du Louvre. Alors ce passage en deux mots, de quoi s'agit-il ? Le héros, Bardamu, est devenu un médecin de banlieue, de Clichy, que Céline appelle Rancy, et il est dans une profonde mélancolie parce qu'un petit garçon qu'il cherche à soigner, qui s'appelle Bébert, est à l'article de la mort. Il a été voir un grand professeur pour savoir si ce professeur pouvait lui donner des conseils pour guérir cet enfant. C'est sans espoir. Et il revient, mélancolique, par la rue Bonaparte avant de gagner la rive droite, Clichy et toute la misère du monde. Cependant, vers la rue Bonaparte, la réflexion me revint, la triste. C'est une rue pourtant qui donnerait plutôt du plaisir aux passants. Il en est peu d'aussi bienveillantes et gracieuses. Mais en m'approchant des quais, je devenais tout de même craintif, je rôdais. Je ne pouvais me résoudre à franchir la Seine, tout le monde n'est pas César. De l'autre côté, sur l'autre rive, commençaient mes ennuis. Je me réservais d'attendre ainsi de ce côté gauche jusqu'à la nuit, et toujours quelques heures de soleil, de gagné, que je me disais. L'eau venait clapoter à côté des pêcheurs, et je me suis assis pour les regarder faire. Vraiment, je n'étais pas pressé du tout, moi non plus, pas plus qu'eux. J'étais comme arrivé au moment, à l'âge peut-être, où on sait bien ce qu'on perd à chaque heure qui passe. Mais on n'a pas encore acquis la force de sagesse qu'il faudrait pour s'arrêter pile sur la route du temps. Et puis d'abord, si on s'arrêtait, on ne saurait quoi faire non plus sans cette folie d'avancer qui vous possède et qu'on admire depuis toute sa jeunesse. On en est moins fier d'elle, de sa jeunesse. On n'ose pas encore l'avouer en public que ce n'est peut-être que cela, sa jeunesse, de l'entrain à vieillir. On découvre tout son passé ridicule, tellement de ridicule, de tromperie, de crédulité, qu'on voudrait peut-être s'arrêter tout net d'être jeune. Attendre la jeunesse qu'elle se détache, attendre qu'elle vous dépasse, la voir s'en aller, s'éloigner, regarder toute sa vanité, porter la main dans son vide, la voir repasser encore devant soi, et puis soi partir, être sûr qu'elle s'en est bien allée sa jeunesse et tranquillement. Alors, de son côté, bien à soi, repasser tout doucement de l'autre côté du temps pour regarder vraiment comment qu'ils sont les gens et les choses. Au bord du quai, les pêcheurs ne prenaient rien. Ils n'avaient même pas l'air de tenir beaucoup à en prendre des poissons. Les poissons devaient les connaître. Ils restaient là tous à faire semblant. Un joli dernier soleil tenait encore un peu de chaleur autour de nous, faisant sauter sur l'eau des petits reflets coupés de bleu et d'or. Du vent, il en venait du tout frais d'en face à travers les grands arbres, tout souriant le vent, se penchant à travers mille feuilles en rafales douces. On était bien. 2 heures pleines, on est resté ainsi à ne rien prendre, à ne rien faire. Et puis, la Seine est tournée au sombre et le coin du pont est devenu tout rouge du crépuscule. Le monde, en passant sur le quai, nous avait oubliés là, nous autres, entre la rive et l'eau. La nuit est sortie de dessous les arches. Elle est montée tout le long du château. Elle a pris la façade, les fenêtres, l'une après l'autre, qui flambaient devant l'ombre. Et puis, elles se sont éteintes aussi, les fenêtres. Il ne restait plus qu'à partir, une fois de plus. Les bouquinistes des quais fermaient leurs boîtes. « Tu viens !» que criait la femme par-dessus le parapet à son mari, à mon côté, qui refermait, lui, ses instruments et son pliant et les asticots. Il a grogné. Et tous les autres pêcheurs ont grogné après lui, et on est remonté, moi aussi, là-haut, en grognant, avec les gens qui marchent. Je lui ai parlé à sa femme, comme ça, pour lui dire quelque chose d'aimable avant que ça soit la nuit partout. Tout de suite, elle a voulu me vendre un livre. C'en était un de livres qu'elle avait oublié de rentrer dans sa boîte, à ce qu'elle prétendait. Alors ce serait pour moins cher, pour presque rien, qu'elle ajoutait. Un vieux petit Montaigne, un vrai de vrai, pour un franc. Je voulais bien lui faire plaisir à cette femme pour si peu d'argent. Je l'ai pris, son Montaigne. Sous le pont, l'eau était devenue toute lourde. J'avais plus du tout envie d'avancer. Au boulevard, j'ai bu un café crème et j'ai ouvert ce bouquin qu'elle m'avait vendu.
Philippe Baussan de l'Académie française lit un extrait de son roman Stradella.
Stradella, c'est un roman, c'est à partir d'un personnage, c'est un musicien qui a vécu au XVIIe siècle, que je ne sais pas pourquoi, il m'a poursuivi depuis mon enfance. J'ai dû lire quelque chose quand j'avais 10 ans ou 12 ans, et j'ai fini par écrire un roman sur lui, mais où je parle de tout, de lui bien sûr, mais aussi beaucoup de moi. J'ai lu Les Trois Mousquetaires lorsque j'avais 12 ans. Je suppose que vous aussi, à cet âge ou à un autre, vous avez rencontré D'Artagnan, l'affreux bourreau de Béthune, la fascinante Milady, la douce Madame Bonacieux, le pâté en croûte sur le bastion de La Rochelle, arrosé de vin d'Anjou. J'espère que vous l'avez fait assez tôt. Les livres importants sont ceux qu'on lit avant 15 ans. Ils vous marquent pour la vie. Et pour cette raison, il est indispensable qu'ils soient bons. Point n'est besoin de les relire quand on prend de l'âge. Peut-être est-il même prudent de l'éviter. Oubliez, le livre a grandi avec vous et ce que vous liriez aujourd'hui n'est plus ce qui vous a ému alors. Le livre est resté au fond de vous-même. Il s'est transformé avec ce que vous êtes devenu. Il n'a cessé de conduire, sans que vous le sachiez, les pentes secrètes de votre imagination et de votre cœur. Vous êtes l'enfant des livres, à peu près comme vous êtes l'héritier de votre premier je, de votre premier non, de votre premier oui et du premier baiser qu'un peu plus tard vous avez donné et reçu. Donc, à 12 ans, avec jubilation, j'ai dévoré Les Trois Mousquetaires. Je ne me souviens plus de les avoir ouverts depuis, et pourtant je puis vous dire avec précision l'étonnement des premières pages, celles où l'on voit le pauvre gentilhomme dans l'auberge de Main-sur-Loire, tandis qu'un inquiétant personnage déjà fait un peu peur, et qu'on entrevoit Milady dans son carrosse. J'affirme qu'il n'est pas possible à un homme et pour toute sa vie de considérer la femme du même regard s'il a rencontré ou non à 12 ans Milady, puis quelques pages plus loin, Madame Bonacieux. Mais ce qui est étonnant dans mon cas personnel, ce n'est pas que j'ai lu Les Trois Mousquetaires, c'est le carambolage, la collision, le télescopage fantastique qui s'ensuivit. D'Artagnan s'est cogné à Rodrigue. Que Les Trois Mousquetaires soient 4 passes, mais pour moi, ils étaient 5. Car en classe de 4e, lorsque j'avais 12 ans, on étudiait le Cid, qui avait le même grand chapeau, la même cape, la même épée et la même dégaine que D'Artagnan. Or, selon la vieille méthode d'alors, on apprenait par cœur des tirades entières du vieux Corneille. Je les sais encore, non pas à cause de ma mémoire qui est mauvaise, mais à cause des punitions. Baussan, 100 lignes pour demain. Baussan, vous me copierez 200 lignes. Or, moi, j'avais découvert deux choses. Premièrement, qu'un alexandrin écrit un peu large remplissait à peu près l'espace d'une ligne de cahier d'écolier. et ensuite qu'il était beaucoup plus rapide de transcrire un texte su par cœur que de faire une copie qui sans cesse oblige à s'interrompre pour jeter un œil sur la suite. J'ai donc copié et recopié un nombre incalculable de fois. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère, une ligne. J'attire son courroux en ne me vengeant pas, une ligne. Digne ressentiment à ma douleur bien doux, une ligne. À quatre pas d'ici, je te le fais savoir, une ligne. Je ne me rappelle plus très bien quand Cyrano a rejoint D'Artagnan et Rodrigue. Très vite, me semble-t-il, il avait sur eux un immense avantage. Cyrano amenait avec lui Roxane. Pardon, Chimène, vous étiez trop secrète pour nous. Nous n'avions rien compris à Corneille. Nous nous battions pour vous par devoir, non par inclination. Nous redoutions les charmes trompeurs de Milady. Mais sans vraiment les craindre, Madame Bonacieux nous avait fait un moment rêver, mais c'est Roxane que nous attendions. Les filles en ce temps-là ne peuplaient les collèges de garçons que par l'imagination. Nous les voyions dans les rues, les jours de promenade. Elles étaient à bicyclette et nous en rempart d'eux. Ces visions gracieuses, trop fugitives et aussi inaccessibles que Roxane à son balcon, n'en étaient que plus présentes dans nos combats pour rire. Mais c'est pour vous, Roxane, que nous nous battions, un bout de bois à la main, la cape au vent, piétinant les feuilles mortes et criant au hasard « À moi, Porthos, as-tu du cœur ? À la fin de l'envoi, je touche !»
Après cet extrait de Stradella, Philippe Bossan a choisi de lire un extrait de Marcel Proust à la recherche du temps perdu.
C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus beau. Pourquoi Proust ? D'abord parce que je l'aime, j'aime sa manière d'écrire, j'aime sa manière de sentir. Depuis toujours, il me fascine. L'exemplaire que j'ai sous la main, je l'ai acheté en 1959. Il y a ma signature de ce temps-là, il est très très abîmé et je l'aime toujours autant. Et puis alors il se trouve que j'habite, j'ai une petite maison de campagne qui est à 50 km d'Illiers-Combray. Alors je vais chez Proust de temps en temps. Et quand je vais chez Proust, je retrouve exactement l'atmosphère de ce que je vais vous lire. La cousine de mon grand-père, ma grand-tante, chez qui nous habitions, était la mère de cette tante Léonie, qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, n'avait plus voulu quitter d'abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre, puis son lit, et ne descendait plus, toujours couchée, dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d'idées fixes et de dévotion. C'était de ces chambres de province qui, de même qu'en certains pays, des parties entières de l'air ou de la mer sont illuminées ou parfumées par des myriades de protozoaires que nous ne voyons pas, nous enchantent des mille odeurs qui dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l'atmosphère y tient en suspens. Odeurs naturelles encore, certes, et couleurs du temps comme celles de la campagne voisine, mais déjà casanières, humaines et renfermées. Je l'ai exquise, industrieuse et limpide de tous les fruits de l'année qui ont quitté le verger pour l'armoire. Saisonnière, mais mobilière et domestique, corrigeant le piquant de la gelée blanche par la douceur du pain chaud, oisive et ponctuelle comme une horloge de village, flâneuse et rangée, insoucieuse et prévoyante, lingère, matinale, dévote, heureuse d'une paix qui n'importe qu'un surcroît d'anxiété et d'un prosaïsme qui sert de grand réservoir de poésie à celui qui les traverse sans y avoir vécu. L'air y était saturé de la fine fleur d'un silence si nourricier, si succulent, que je ne m'y avançais qu'avec une sorte de gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques, où je le goûtais mieux parce que je venais seulement d'arriver à Combray. Avant que j'entrasse souhaiter le bonjour à ma tante, on me faisait attendre un instant dans la première pièce où le soleil d'hiver encore était venu se mettre au chaud devant le feu, déjà allumé entre deux briques, et qui badigeonnait toute la chambre d'une odeur de suie, en faisait comme un de ces grands devants de four de campagne ou ces manteaux de cheminée de château sous lesquels on souhaite que se déclenche dehors la pluie, la neige et même quelques catastrophes diluviennes pour ajouter au confort de la réclusion la poésie de l'hivernage. Je faisais quelques pas du prie-Dieu au fauteuil en velours frappé, toujours revêtu d'un appuie-tête au crochet, et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l'air de la chambre était tout grumeleux et qu'avait déjà fait travailler et lever la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense chausson où, à peine goûté, les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi, du placard, de la commode, du papier à ramage, je revenais toujours avec une convoitise inavouée, m'engluer dans l'odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruité du couvre-lit à fleurs.
Pierre Nora de l'Académie française lit un extrait d'un poème d'Aragon, Plus belle que les larmes.
Alors j'ai choisi ce poème parce que je me les suis récité beaucoup pendant la guerre, quand j'avais 12 ans dans le Vercors, où j'étais réfugié et où j'étais pas tellement sûr de revoir Paris. Et ces poèmes d'Aragon circulaient encore presque sous le manteau et ils m'avaient beaucoup touché. Ah Paris, mon Paris, lui qui sait des chansons et qui fait des colères, qui n'a plus qu'au lavoir des drapeaux délavés, métropole pareille à l'étoile polaire, Paris qui n'est Paris qu'arrachant ses pavés, Paris de nos malheurs, Paris du cours la Reine, Paris des blancs manteaux, Paris de février, du faubourg Saint-Antoine aux coteaux de Suresnes, Paris plus déchirant qu'un cri de vitrier.
Gabriel de Breuil de l'Académie française, chancelier de l'Institut de France, a choisi de lire un extrait de la satire 6 de Boileau, connu sous le nom des Embarras de Paris, Boileau qui était lui-même membre de l'Académie française.
J'ai choisi de relire cette satire parce que Boileau est notre confrère, qu'il est contemporain de l'architecture de cette belle coupole, et que les scènes qu'il décrit ne sont pas très éloignées de celles que nous connaissons aujourd'hui dans les mêmes rues que celles que fréquentait Boileau. Tout conspire à la fois à troubler mon repos, et je me plains ici du moindre de mes maux, car à peine les coqs commençant leur ramage auront de cris aigus frappé le voisinage, qu'un affreux serrurier, laborieux Vulcain, qu'éveillera bientôt l'ardente soif du gain, avec un fer maudit, qu'à grand bruit il apprête, de son coup de marteau va me fendre la tête. J'entends déjà partout les charrettes courir, les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir, tandis que dans les airs, mille cloches émues d'un funèbre concert font retentir les nues, et se mêlant au bruit de la grêle et des vents, pour honorer les morts, font mourir les vivants. Encore je bénirais la bonté souveraine si le ciel, à ses maux, avait borné ma peine. Mais si seul en mon lit je peste avec raison, c'est encore pis 20 fois en quittant la maison. En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse d'un peuple d'importants qui fourmille sans cesse. L'un me heurte d'un nez dont je suis tout froissé. Je vois d'un autre coup mon chapeau renversé. Là, d'un enterrement, la funèbre ordonnance d'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance. Et plus loin, des laquais, l'un l'autre s'agaçant, font aboyer les chiens et jurer les passants. Des paveurs, en ce lieu, me bouchent le passage. Là, je trouve une croix de funeste présage. Et des couvreurs, grimpés au toit d'une maison, en font pleuvoir l'ardoise et la tuile à foison. Là, sur une charrette, une poutre branlante vient menaçant de loin la foule qu'elle augmente. 6 chevaux attelés à ce fardeau pesant, on peine à l'émouvoir sur le pavé glissant. D'un carrosse, en tournant, il accroche une roue et du choc le renverse en un grand tas de boue. Quand un autre, à l'instant, s'efforçant de passer dans le même embarras, se vient embarrasser. Vingt carrosses, bientôt, arrivant à la file, y sont en moins de rien suivis de plus de 1000. Et pour surcroît de maux, un sort malencontreux conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs. Chacun prétend passer, l'un mugit, l'autre jure. Des mulets en sonnant augmentent le murmure. Aussitôt 100 chevaux dans la foule appelée, de l'embarras qui croît ferme les défilés. Et partout, les passants, enchaînant les brigades, au milieu de la paix font voir les barricades. On n'entend que des cris poussés confusément. Dieu, pour s'y faire ouïr, t'honorait vainement. Moi donc, qui dois souvent en certains lieux me rendre, le jour déjà baissant, et qui suis là d'attendre, ne sachant plus tantôt à quel saint me vouer, je me mets au hasard de me faire rouer. Je saute 20 ruisseaux, j'esquive, je me pousse, Guénaud sur son cheval en passant m'éclabousse, et n'osant plus paraître en l'état où je suis, sans songer où je vais, je me sauve où je puis.
Ces lectures s'achèvent. L'Académie française vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée.